Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Fanissa, le podcast qui donne la parole à de nouveaux rôles modèles féminins.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du Find Yourself Show. Alors aujourd'hui, on va parler du lien qu'il peut y avoir entre la confiance en soi et le rapport à son corps. Et pour ce faire, du coup, j'ai trois belles invitées qui sont Mélissa, Louise et Amélie. Et je vais vous laisser vous présenter les filles. Donc Amélie, dis-nous qui es-tu.
Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis auteure et traductrice et créatrice du compte Elopecia, qui est un compte Instagram pour faire parler de la perte de cheveux chez les femmes.
Ok, cool. Merci.
Je m'appelle Louise, je suis art thérapeute et j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Lettre à mon corps où j'invite les personnes à se reconnecter à leur corps à travers deux lettres. Des lettres.
Bonjour, moi c'est Mélissa. Alors je suis la fondatrice du média L'Afropolitaine qui est présent sur Instagram, qui est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines et afrodescendantes.
Merci les filles pour votre présentation. Oui. Du coup les filles, si vous êtes invitées aujourd'hui, c'est parce que pour ce sujet, alors on est toutes confrontées du coup à un moment à notre rapport à notre corps et comment ça joue sur notre confiance en nous. Et vous trois, de ce que je connais de vous, vous avez toutes un parcours particulier avec votre corps. Et donc du coup c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Donc je vais poser une question générale et puis vous allez répondre. Mais déjà, si on part d'aujourd'hui, quel est votre rapport à votre corps aujourd'hui?
J'ai enfin fait la paix avec mon corps.
Ok, comment ça s'est passé?
Ça a été un processus graduel en fait, ça a été pierre par pierre. Et là, oui, je suis arrivée à un stade de ma vie où si je prends du ventre, je suis bien. Donc ça veut vraiment dire que j'ai réussi à faire la paix.
Ok, et pourquoi avant t'étais en guerre avec ton corps?
Parce que si tu veux, j'étais en période de construction, j'étais énormément... si tu veux, le poids en fait des médias et le regard des autres sur moi, moi je le prenais vraiment comme une vérité en fait. Mm-hmm. Comme une vérité absolue, au lieu de d'abord prendre en considération d'abord moi, ma façon de me voir. Et j'étais trop fixée en fait, j'avais trop besoin en fait de la validation en fait des autres.
Ouais.
Donc du coup ça faisait que quand tu attends la validation des autres, vu que les autres ont des avis différents, tu as forcément des personnes à qui tu vas pas forcément plaire. Et du coup tu te plais jamais à toi-même quand tu dépends forcément de la vie des autres.
Ouais. Toi, Louise, du coup?
J'ai eu un rapport très conflictuel à un moment donné, plus dans tout ce qu'adolescence, plutôt avant. Maintenant, on va dire que je vois plus mon corps. Clairement, c'est ok, j'ai une très bonne relation, je pense, avec mon corps.
C'est plus un soutien aujourd'hui?
Ouais, c'est un soutien, et surtout, en fait, j'ai pas envie. De temps en temps, je peux me définir que comme dans un corps, mais je crois profondément, je sens que c'est vraiment là. On est plus qu'un corps, en fait. Mmh. Et que du coup, s'arrêter au corps physique, je me dis, mais en fait, c'est tellement dommage, c'est tellement petit, parce qu'on est tellement plus, on a des qualités humaines, on a une énergie, on est fait d'énergie. Donc je me dis, mais s'arrêter au corps physique, c'est nous enlever aussi plein de potentiel, en fait.
Ouais.
Donc au-delà du corps physique, se dire physiquement je vais bien, je suis en bonne santé, je pense que j'ai pas de problème là-dessus. Donc je me dis c'est au clair, clairement.
Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que avant t'avais un rapport conflictuel avec ton corps, et maintenant c'est plus le cas, mais parce que tu l'as transcendé un peu.
Ouais.
Tu le vois plus comme juste un corps.
Ouais.
Ok, très bien, c'est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, parce que t'as quand même ton enveloppe corporelle avec laquelle tu vis tous les jours, etc. Est-ce que du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu te regardes quand même? Il y a des moments où tu dis je m'apprécie ou je m'apprécie pas, ou en fait ça te passe même pas par la tête parce que de toute façon je suis tellement plus que mon corps que...
Ça dépend des périodes. J'ai des périodes où je peux revenir sur un côté plus physique, en mode se comparer, des trucs à la con. Et il y a des moments, je prends soin de mon corps parce que ça se fait naturellement. Je m'écoute quand je mange. Je dors quand j'ai envie de dormir. Là, je suis plutôt quand même saine, on va dire.
Ouais.
Mais il y a des moments où il est là pour me porter, pour faire des projets avec moi. Et je vois plus que comme ça, mais il y a des moments, oui, il y a des moments. C'est surtout des périodes où mon énergie, je l'utilise pas au bon endroit. Ça veut dire où je suis pas dans un environnement avec mes valeurs, où je suis pas avec des personnes qui partagent mes valeurs. Comme j'ai un côté quand même très artiste, si je n'utilise pas cette énergie artistique, je vais la retourner contre moi avec des mauvaises pensées, parce que j'ai tellement d'énergie que de toute façon il faut que je me bouffe un peu d'énergie. Donc on va se comparer à des personnes que clairement je ne pourrais jamais ressembler.
Ouais.
Et donc voilà, c'est plus ça. Ouais.
Cool. Ok, trop cool. Et toi, bon, du coup, on est vraiment sur le corps. Oui. Mais toi, alors, du coup, parce que je sais que t'as un compte qui n'est pas lié, enfin, qui est lié au corps, mais c'est pas le
ce dont on parle. Un corps qu'on, enfin, pas qu'on néglige, mais qu'on prend pas toujours en considération quand on parle du corps, parce que le corps, j'ai l'impression que c'est
trop. C'est après le visage.
Alors que non, le visage et les cheveux, l'absence de cheveux en font partie. Oui. Moi aujourd'hui. Je sais pas si je peux dire comme toi que j'ai fait la paix avec mon corps, mais je pense que je lui fous la paix. Et c'est déjà pas mal. Et avec mon corps, de manière générale, j'ai appris à accepter et à apprivoiser plein de choses que je pouvais pas aimer quand j'étais plus jeune, comme, je sais pas, le fait que j'ai des poils, le fait que j'ai certaines parties de mon corps qui me plaisaient pas, maintenant je suis en fait, c'est pas... Enfin, ça fait partie de moi et j'ai pas envie de les modifier ou de les faire rentrer dans une norme. Donc ça, c'est plutôt cool. Et par rapport à mes cheveux, du coup, moi, je perds des parties de mes cheveux, on va dire, par plaque. Donc j'ai jamais correspondu à une norme à ce niveau-là. Donc ça a été assez conflictuel et ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu cacher parce que j'en avais honte. Donc très vite, mon rapport au corps, ça a été cacher une partie de moi et en avoir honte. Donc c'est pas évident de se construire avec ça. Et j'ai fait du chemin.
Ouais.
Parce que là, j'ai une pelade du coup et je l'ai depuis que je suis toute petite. Après, c'est des questionnements qui sont plutôt arrivés à l'adolescence, au collège, lycée, quand là tu commences à avoir conscience que t'as une différence ou quoi. Et du coup, depuis cette époque-là, aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai pris du recul, mais c'est quand même assez récent. Au final, ça fait à peine 8 mois, je pense, que j'ai mon compte Instagram. Mmh. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, j'arrête de cacher cette partie de moi, de mon corps. Et je peux pas dire que je l'aime tous les jours, mais en tout cas, je suis ok avec elle et j'en ai plus honte. Mmh. Et du coup, ça, c'est vraiment génial. Cool. Yes.
Ah ouais, trop. Ouais. T'as eu un déclic pour ça ?
Je pense que le déclic s'est vraiment fait... ça a été assez progressif, mais je dirais qu'il y a eu à peu près deux choses qui m'ont aidée en termes de déclic. La première, c'était d'être tombée sur un court-métrage qui s'appelle La Chute de Maya Gering, qui parle de la calvitie chez les femmes. Et c'est pas exactement ce que j'ai, mais de me rendre compte que d'autres femmes étaient touchées par la perte de cheveux. Qu'il y avait vraiment un tabou sociétal par rapport à ça, et que c'était en fait une question féministe, ce dont je ne m'étais pas forcément rendu compte toute seule, là je me suis dit, je suis pas seule à en avoir honte, et on accepte la perte de cheveux chez les hommes, mais pas chez les femmes, il y a un problème à ce niveau-là. Donc ça m'a aidé à prendre du recul sur cette espèce de honte internalisée que j'avais. Et derrière, ça a été... Un week-end avec des amis où la plupart n'étaient pas au courant alors qu'ils me connaissent depuis le collège. Et à l'époque, je portais une espèce de perruque, donc fallait que j'enlève le soir, tout ça. Et je me suis dit, je vais leur dire parce que ce sera plus simple à gérer pour moi. Et je leur ai dit, et en fait, ils ont réagi en mode « Ok, pas de soucis ». Puis quand je l'enlevais, ils me voyaient avec mes trous dans les cheveux et leur regard n'a pas du tout changé sur moi, et je me suis dit, si leur regard à eux, il ne change pas, pourquoi moi, mon regard, il est si dur? Et c'est ce qui m'a aidé à passer un peu de l'autre côté et à apprendre à être ok avec mon image, avec mon manque de cheveux et tout ça.
C'est génial, c'est super fort. Non, c'est... Ouais. Moi, je suis stupéfaite parce que c'est vrai, et c'est ce que je dis, c'est qu'on... On en parle. Et c'est vrai, comme tu dis, le corps, tu t'arrêtes, enfin, c'est en bas du visage, tu vois. Et les cheveux, alors que pourtant, on est toutes d'accord pour dire que les cheveux, c'est une partie de la féminité, parce que c'est ça aussi le rapport au corps. Ouais. Surtout chez les femmes, on a une pression qui pèse sur ça, parce que c'est la féminité.
Et l'identité aussi, je trouve beaucoup. Enfin, les gens me disent, ouais, pour moi, les cheveux, c'est une partie de mon identité, donc ça encore
oui, c'est
plus
vrai.
Loin même que la féminité.
C'est totalement vrai ce que tu dis. Ouais. Parce que tu vois, moi qui ai les cheveux crépus, et je pense Mélissa aussi, enfin, nous, c'est vraiment vecteur. Ça marque. Ça marque quelque chose quand t'as les cheveux raides aussi, mais quand j'ai jamais eu les cheveux naturellement raides, je me pose pas la question.
Vous serez mieux placé pour moi pour en parler, mais effectivement, les cheveux, il y a plein de discriminations par rapport aux cheveux.
Bien sûr.
Et c'est pas toujours inclus dans les conversations sur le corps, sur ces choses-là, alors que ça existe et faudrait qu'on en parle plus.
Ouais, non, mais c'est clair. Du coup, merci de rajouter ta pyralidie. C'est trop cool. Non, mais vraiment, bravo, c'est trop cool. Oui, les filles, ça a été quoi pour vous le déclic pour vous réconcilier avec vous? Déjà, parce que toutes les deux, vous avez un rapport conflictuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi le conflit, en fait, avec le corps? Parce que bon, moi, je vous vois, vous êtes magnifique, donc... Mais ça, c'est aussi, hein. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, je me dis, bon, de toute façon, c'est toujours ça. Les gens, ils voient toujours magnifique, mais toi, tu vois toujours le truc que personne ne voit, tu vois. Donc, du coup, c'était quoi vos conflits avec votre corps? C'était plus par rapport au poids, à la forme, à la morphologie, à... C'était quoi les conflits?
Alors, le conflit, bah, c'était au niveau de ma morphologie. Parce que, si vous voulez, moi, je suis une précoce. Et j'ai commencé physiquement à me développer beaucoup plus vite. J'ai eu mes règles à l'âge de 9 ans. Et j'étais formée à 9 ans, j'avais déjà ma poitrine, enfin tous les poils pubiens, enfin la totale. Et à cet âge-là, on est encore enfant dans la tête. Donc quand tu es formée comme ça, tes autres camarades ne comprennent pas trop ce qui ne va pas chez toi. T'as
elle
des remarques
en tout genre. Elle a pris des champignons magiques. Ah, elle a grandi trop vite, on a compris.
T'as des remarques en tout genre. T'as des personnes qui rigolent. T'as des filles qui sont jalouses parce que toi, t'as ce qu'il faut. Là où il faut trop tôt. Toi, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as les hormones qui sont en marche. Donc, il y a tout ce conflit-là déjà intérieur en moi déjà, où je comprends pas ce qui se passe, mais je dois comprendre vite parce que je suis plus comme je suis plus une enfant. Et ça s'est vraiment matérialisé, manifesté comme tel au collège. Au collège où j'ai reçu pas mal de remarques, et il y a une remarque en moi qui m'a beaucoup marqué. C'est un groupe de jeunes garçons qui sont venus vers moi, ils étaient 4 ou 5, et je pensais qu'ils venaient me saluer puisqu'ils venaient tout droit, ils fonçaient tout droit vers moi. Je me dis
salut les gars, venez.
Et en plus à l'époque j'étais un garçon manqué, donc je me disais ils vont peut-être me saluer. Et il y en a un des 5 qui s'est avancé pour me dire: tu es tellement moche que personne ne voudra de toi. Et ça, c'est violent. On me l'a dit à l'âge de 11 ans et ça m'a tellement touchée que je me suis dit, je suis tellement moche, je vais... Ok, je l'ai accepté en fait. J'ai pas eu une réaction de rejet ou quoi, j'ai intériorisé ça dès le moment où ils me l'ont dit. Et dès lors, j'ai commencé à me négliger, mais complètement. Je m'habillais plus, mes cheveux, c'était vraiment... je coiffais pas, c'était fouillis. Ma mère, elle avait beau essayer de me tresser ou quoi, je voulais pas. Et puis malheureusement, moi, comme je vous l'expliquais, j'étais précoce, j'avais une forte poitrine, j'ai toujours une forte poitrine, même si elle a diminué par rapport à avant. Et du coup, quand j'allais dans des magasins de lingerie classique, donc je vais pas citer les noms, je trouvais pas ma taille. Et du coup, ça a créé une sorte de phobie des magasins en fait. Je ne supportais plus d'aller faire du shopping. Je n'allais pas parce que j'avais peur de ne pas trouver ma taille. Du coup, pour les sous-vêtements, je devais aller dans des boutiques spécialisées. Les boutiques spécialisées, c'est des soutiens-gorge. Lait, mamie. Moi, un jour, si je deviens mamie, je ne veux pas porter ça. En tout cas, non. Je ne veux pas que mon chéri ou qui que ce soit m'achète ça. C'est immonde. Et pour une adolescente qui est en pleine construction, la féminité, c'est important de pour se connecter à son corps à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit. Moi, ça a été destructeur. Et j'ai développé ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est assez... Je qualifie souvent de barbare, parce que c'est un terme, honnêtement, quand on entend ça, déjà, même le prononcer, qu'est-ce qui va pas chez toi? Et c'est quelque chose qui est devenu... C'est-à-dire que je me voyais en fait comme dans un miroir me déformant en fait. Je me voyais mais avec une vision complètement difforme quoi. Et c'est devenu en fait un mode de vie en fait. Dans ma tête à moi, j'étais moche. Et à un moment donné, ça a atteint un stade où je me suis dit il faut peut-être que j'en parle à un psychologue, parce que malgré le soutien de ma famille, ça suffisait pas. Ils avaient beau me rassurer, moi j'étais dans une forme de je suis moche parce qu'on on me l'a dit. Et quand et moi je suis quelqu'un, je crois vraiment au fait que la parole est créatrice. Dès lors qu'on on accepte quelque chose, dès lors qu'on intériorise une parole, elle devient réalité.
Exactement.
Et du coup je suis partie consulter une psychologue qui m'a...
À quel âge?
Ça s'est passé à l'âge de 21 ans. L'âge de 21 ans, je suis partie voir une psychologue. Et à ce moment-là, elle m'a demandé de vraiment faire un retour en arrière, de vraiment déterminer quel a été l'événement qui a provoqué cela. Et c'est à partir de cela que j'ai pu justement faire un travail de reconstruction en fait. C'est parti de là. Et après, mon processus a été long jusqu'à aujourd'hui du coup.
Ok, donc du coup, c'est maintenant que tu dis que tu as fait la paix, parce qu'en fait, tu as eu ce truc-là. Tu as commencé à faire un travail sur toi qui t'a permis en fait d'initier ce processus de paix avec ton corps.
Ouais, totalement.
Ok. Et le déclic, c'était quoi? Je crois que c'était tes 21 ans.
Mes 20 ans.
Tes 20 ans.
Mes 20 ans, en fait, là, moi, depuis toute petite, 20 ans, pour moi, c'était le Graal.
C'est l'adulte, quoi.
Ah ouais, c'est pas seulement l'adulte, mais le fait que c'est un âge qui est chic. Tout, oh, c'est l'âge parfait et tout. Et moi, 20 ans, pour moi, c'était l'âge, honnêtement, je devais frimer. J'ai 20 ans, les gars. Même si on ne demandait pas, même quand, quand je suis enfant et que je projetais, je me disais, même si on ne demande pas mon âge, quand j'aurai 20 ans, je dirais à la terre entière que j'ai 20 ans.
Ouais,
parce que c'est super beau. Et je suis arrivée à mes 20 ans, bah, j'étais à l'opposé de ce que je voulais être. J'avais toujours ce problème-là. Ça m'handicapait même dans mes relations sociales, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, en ton corps, les gens le ressentent et les gens, instinctivement, on n'aime pas la négativité.
Ouais.
Donc, tout ce qui est, dès que tu as un regard négatif sur toi-même, bah, tu fais fuir les gens sans t'en rendre compte. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, petit à petit, j'ai amorcé un travail. Enfin, ça s'est beaucoup fait grâce à la blogosphère, moi, qui commençait à être émergente à l'époque. Donc, j'essayais de voir un peu des femmes qui me ressemblaient, voir comment elles prenaient soin d'elles. Et puis, ça a été un processus.
Ouais, super, c'est fort. Du coup, toi, Louise, à ton tour, toi, c'était quoi le conflit que tu avais, enfin, le conflit ou le conflit que tu avais avec ton corps, et quel a été le déclic pour que tu t'en sortes?
Moi, ça a été le ventre et le poids, je pense, en fait. Enfin, le ventre, donc, c'était souvent lié au poids. Bah, moi, je suis tombée dans l'anorexie à mes 16 ans, et après, j'ai fait de l'hyperphagie. C'est-à-dire que, comparé à la boulimie, on se fait pas vomir. Donc, je mangeais énormément. Et en fait, le fait d'être passée par les deux extrêmes, par exemple, là, je crois que je pèse, parce que j'ai plus de balance, mais je pèse, je pense, 60 kilos là, et je pesais 45. Donc j'étais vraiment
maigre.
Ouais, j'étais vraiment maigre. Et après, j'ai vraiment aussi beaucoup grossi du coup. Et en fait, le fait d'être vraiment passé dans les extrêmes, je pense qu'à un moment donné où j'ai lâché, j'ai fait franchement, enfin, c'est trop contrôlé, c'est pas ok. Et en même temps, je crois que j'avais tellement bouffé, tellement mangé qu'à un moment donné, mon corps en fait, je crois que c'est un peu régulé, donc il y a eu ça, et je suis allée voir aussi des thérapeutes qui m'ont énormément aidée, et parce que je pense que sinon sans ça, ça aurait été compliqué aussi. Et du coup, le rapport au corps a vraiment changé, et ça évolue à chaque fois. Enfin, comme je vous disais, il y a des moments où je peux revenir dans une sorte de boucle un peu de négativité, mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme avant, et je pense aussi ce qui m'a aidée, c'est de connaître mes valeurs, des valeurs par exemple la bienveillance, le respect, l'écologie. Et en fait, du coup, ça a été un peu mes boussoles aussi. Et je me suis focalisée plus forcément sur mon physique, mais sur ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, donc des projets. J'ai commencé à me dire que l'environnement, c'était aussi important, l'environnement avec qui je restais. Et en fait, du coup, mon énergie, je pense, il était moins focus sur le côté physique. Mais plus sur, voilà. Bon, en fait, j'avais moins de choses. Enfin, je pouvais plus penser autant à la nourriture, je pouvais plutôt autant penser à maigrir ou pas maigrir, parce qu'en fait, je mettais mon énergie ailleurs.
Ouais, en fait, tu t'es moins centrée sur toi, ouais, et ton corps.
Plus que
là, et
ça t'a
permis. Ouais, ok. Du coup, je voulais vous demander, les filles, dans tout ça, est-ce que vous avez confiance en vous?
En vrai, je pense que ça dépend. Ça dépend des jours. Tu vois, j'aimerais répondre oui à cette question, genre oui, 100%, j'ai vachement confiance en moi, mais pour être honnête, c'est pas le cas. Et je pense que ça dépend des jours, des moments, comme disait un peu Louise, c'est aussi des cercles, et il y a des périodes de notre vie où je sais pas pourquoi on a une confiance de dingue en tout ce qu'on fait, et on y croit, et on dit que c'est trop de la balle, tout ça. Et puis il y a des périodes où pour des détails qui fonctionnent pas, ou juste parce que les énergies sont pas cool, on se dit oh là là, mais je suis qu'une merde, c'est la fin. Bon, voilà, c'est un peu dur, mais en tout cas, je sais qu'il y a encore des moments où j'ai pas confiance en ce que je fais, donc j'ai pas confiance en moi. J'essaye d'accepter ces périodes-là et de pas, de pas trop les combattre, de pas chercher totalement l'acceptation, la confiance et tout, parce qu'en fait, je pense que c'est un idéal qui est inatteignable, et j'aime bien, moi, les trucs développement personnel, tout ça. Si je lis des choses sur ça, je dis « Ah ouais, c'est cool !» Mais derrière, je trouve qu'il y a une injonction qui se crée au développement personnel, à l'acceptation de soi, à la positivité. Et en soi, on est tous humains, humaines. Et c'est ok de parfois pas s'accepter ou de pas avoir confiance. Et donc, moi, pareil, une de mes valeurs, c'est plutôt la bienveillance et vraiment de me laisser porter aussi par ces énergies, de pas me laisser abattre dans les périodes où j'ai pas confiance, tu vois, de savoir que j'ai des bases solides, que je suis quelqu'un de fort, tu vois, et résiliente, et que ça ira, mais de me dire, bah, il y a des jours où ça va pas et c'est ok.
Ouais.
Et de plus en plus, j'apprends à être ma propre pote et à... Et à avoir confiance en ce que je fais, à me dire ouais c'est vrai, c'est cool ce que tu fais et regarde ton chemin parcouru.
Ouais.
Donc ça c'est chouette d'arriver à le mettre en place, mais ouais, c'est pas une confiance à 100% qui est inébranlable, quoi.
Mais en tout cas c'est sur le chemin, en fait, tu l'as construit.
Mais quand même il y a une bonne vibe qui est là, et pareil, moi aussi j'ai fait de la thérapie, j'ai déconstruit beaucoup de choses sur moi, sur mes pensées, comme disait Mélissa, en fait quand t'entends des choses, et même pas, parfois t'as même pas besoin de les entendre, il suffit que tu te les dises ou que tu te crées une réalité,
ça.
Et ça devient quelque chose que tu traînes toute ta vie si tu le déconstruis pas. Donc moi j'ai fait ce travail là et je suis fière de moi pour l'avoir fait, mais c'est un travail de longue haleine, en fait. Tu déconstruis pas un truc que tu t'es répété pendant 15 ans en une année,
c'est sûr. Et je pense que vraiment pour le coup c'est même toute une vie, quoi.
Ouais.
Parce que comme tu dis, c'est un peu en dents de scie finalement la confiance en soi, donc t'as jamais fini de la travailler et d'être dans une confiance qui est un peu inconditionnelle finalement, c'est à dire que ça dépend pas, enfin, qu'il y a des moments où tu sois en bas ou en haut, en fait, tu sais que tu peux compter sur toi. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que faut que t'apprennes à être, c'est trop important ce que tu dis, à être ta meilleure pote. Quoi qu'il arrive, ta meilleure pote, elle va pas bien, t'es là pour la rassurer, elle va bien, et t'es là pour vivre les moments de sommet avec elle, tu vois. Donc, dans tous les cas, t'es là. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu dis.
Pour moi, c'est un peu comme avoir son propre filet de sécurité, quoi.
Tu sais
que si tu te casses la gueule, c'est pas grave, ça ira quand même plus tard. Et moi j'aime bien être bienveillante dans ces moments-là, parce que c'est normal de pas aller toujours bien et tout ça, il faut aussi savoir s'écouter, mais oui, c'est un travail de toute une vie, parce qu'en fait on entendra toujours de nouvelles choses, et certes on n'a pas la même sensibilité je pense adulte que quand on est enfant ou en construction et tout, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des choses qui vont nous façonner toute notre vie,
c'est ça.
Et après il faut savoir s'adapter à tout ça aussi, quoi, sans perdre ses valeurs et son essence.
T'as toujours des nouveaux combats de toute façon dans la vie, donc j'ai juste une petite parenthèse, parce que c'est super important. Toutes les trois, en fait, vous avez des moments où vous n'étiez pas bien et vous avez dit que vous avez consulté, vous avez fait des thérapies. Et en fait, je tiens vraiment à le dire, parce que trop souvent, on a l'impression, enfin, on parle de la thérapie, c'est pour les fous, t'es dans un truc qui est vraiment très très négatif et très très tabou. Sauf qu'en fait, je pense que c'est vraiment hyper important de se faire aider quand on a besoin, en fait. Et il n'y a aucune. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien, qu'on est hors norme, etc. Même les gens, enfin, vous pensez aux sportifs, enfin, même les sportifs qui sont au très haut niveau, qui sont dans des moments de succès, ils ont des thérapies. Même quand on va bien, on peut avoir besoin de cette personne extérieure qui va nous permettre d'extérioriser les choses et de raconter sa vie sous un certain point de vue, enfin voilà, de faire ce cheminement, en fait, de prendre du recul, c'est hyper important. Donc voilà, je tiens toujours à faire passer ce message-là. Consultez des thérapeutes, des psychologues, tout ce dont vous avez besoin, faites-le, parce que il s'agit de vous, en fait.
C'est important de prendre soin de sa santé mentale.
Exactement.
Et de trouver aussi des thérapeutes avec qui on s'entend bien, mais avec qui il y a un point qui passe. Parce que je veux dire, on n'est pas amené à devenir pote avec eux, mais dans le sens où il faut que ça passe, parce que moi ça m'est déjà arrivé de consulter un psy et ça ne marchait pas, et je l'ai senti et j'ai pas insisté, quoi.
T'as raison, c'est un danger aussi.
C'est
vrai, t'as raison.
Moi il y a un truc, c'est le côté socle, carrément, parce que par exemple, pareil, la confiance en soi, je pense, il y a des moments oui, il y a des moments non, et c'est vrai que le socle, je pense que j'ai... avec le temps, de plus en plus solidifié, je sais que je ne pourrais jamais retomber dans des tristesses ou des trucs que j'ai pu vivre avant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je me connais mieux et je sais aussi me protéger, mes limites et tout. Mais il y a un truc où, en fait, c'est par rapport aux émotions, où de temps en temps, je suis en train de lire Joe Dispenza, je suis un peu fan de lui. Il parle des émotions, en fait, où on a des émotions addictives. Par exemple, quand on a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, alors qu'on est tout bien, tout va bien dans notre vie, on va penser à un truc nous mettre en colère ou en tristesse. Et en fait, moi, ça m'a énormément aidée, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des émotions addictes, et qu'en fait, c'est des moments où j'imaginais des trucs pour me mettre en colère ou en tristesse, alors qu'en fait, c'était pas du tout la réalité, mais je me faisais un film dans ma tête. Le regard des autres, ce qu'ils nous ont dit, on l'a ancré négativement, mais c'est pareil, les côtés positifs, pour le coup, si on se répète des trucs positifs, ça va venir notre réalité, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est important de choisir où dresser dans ce côté tristesse et colère, parce que c'est ok, hein, ça peut être un vrai choix de dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être triste, j'ai envie de pleurer, ou j'ai envie de me mettre en colère, ok, c'est ok. Et aussi se dire, en fait, j'ai la possibilité de sortir aussi de ça.
Ouais.
C'est pas forcément facile, je dis pas. C'est peut-être t'as des moments où la méditation, ça peut aider, le sport, ça peut aider. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas par rapport à ces émotions-là, moi je suis vraiment beaucoup plus active, où je me dis, franchement, là, si je suis triste, Louise, ok, si tu veux te pourrir ta soirée, ok, pas de soucis, mais enfin, assume, ouais. Juste, il n'y a, aucun problème si tu veux te dire que t'es une merde, mais vas-y, mais c'est un choix, voilà, et là tu te dis, ah, c'est un peu con quand même, ah, c'est un peu relou, hein. Ok, hop là, je pense à un autre truc, et du coup je mets mon énergie ailleurs, c'est pareil quand on parle d'énergie, ouais. Donc c'est plus là-dessus où moi je suis... Je suis plus dans mon côté plus action.
Oui, t'as plus le choix.
Où je me dis, ouais. Ok, non, je suis pas victime, quoi. C'est bon.
Ouais.
Maintenant que si.
Oui, tu subis pas, tu
décides aussi. Ouais, c'est ça,
décide. C'est cool. Est-ce que dans ces moments-là où vous n'avez pas confiance en vous, est-ce que, entre guillemets, ça, c'est vraiment par rapport à vos réalisations? C'est ce que tu fais, tu dis, ah, vas-y, ce que je fais, c'est nul, etc. Ou est-ce que, justement, votre corps va être un déclencheur? Les moments où tu te sens pas belle, et ben, en fait, tu perds toute ta confiance, quoi. Tu vois?
Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est d'abord c'est quand tu n'as pas confiance en toi que là, enfin moi en tout cas, c'est quand je perds confiance en moi par rapport à une situation donnée, que là ça se répercute sur la vision dont je vois mon corps, en fait.
Bah, tu te blâmes, en fait, c'est comme une punition.
Je vais me blâmer sur le point donné que je maîtrise pas, et puis sur tous les accomplissements que j'ai pu faire.
Oh voilà, c'est tout les ça. C'est effectivement ça, dans la richesse, on rajoute.
C'est vraiment ça. C'est l'importance, bah, comme tu disais, Amélie, de vraiment faire attention à sa santé mentale, à la façon dont on nourrit, en fait, notre esprit, en fait.
Ouais.
Ça, c'est super important, et j'ai beaucoup aimé le fait que tu évoques le parcours accompli, parce que c'est justement, bah, ce parcours accompli, en fait, qui permet d'être un appui de confiance, en fait, dans les moments où on perd un peu confiance, on se dit, bah, là, tu te souviens que, voilà, t'avais peut-être du mal à faire telle ou telle chose, t'avais peut-être du mal à te regarder dans le miroir, t'as pas été à la piscine pendant un certain temps, des choses comme ça, et de savoir que tu as réussi à passer outre, bah, ça permet justement, bah, de réaffirmer, enfin, pas de se réaffirmer, mais d'alimenter la confiance qu'on a en soi et de continuer à avancer, en fait.
Ouais, je pense que, enfin, c'est compliqué comme question, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, les vases, il y a une image, là, les vases qui se versent l'un dans l'autre. C'est par rapport, en fait, de si t'as confiance en soi, c'est parce que... enfin non, quand t'as plus confiance en toi, tu te trouves moins bien dans ton corps ou quoi. J'ai l'impression que ça peut s'alimenter. Enfin, j'arrive pas à savoir si ça vient forcément d'un manque de confiance par rapport à tes accomplissements, ou si ça vient parce qu'un matin, tu te réveilles et tu te regardes et t'es genre... et du coup, enfin moi, je sais que... Bon, c'est sûr que dans des moments où c'est pas au top, je vais être plus critique par rapport à mon apparence. Mais je sais qu'aussi, parfois, je peux me regarder, mes cheveux, tout ça, et genre, ça me saoule que ce soit dans cet état-là, et je me dis, bah... Enfin, je me dis des trucs un peu durs, et du coup, là, derrière, je perds ma confiance, parce que, du coup, je me dis, ah oui, bah, avec ces cheveux comme ça, je vais être capable de rien, tu vois. Enfin, et ça, je le fais moins, tu vois, mais ça arrive des moments où... De voir un peu... ouais, de me regarder, ou de poser un regard sur mon corps, j'ai l'impression que ça peut m'aider à perdre confiance. Enfin, c'est pas aider, du coup, mais...
Oui, non, ça peut t'entraîner à t'inciter à...
Ouais, donc j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, ça dépend des moments, tu vois. Mais je suis d'accord que sinon, ça part plutôt d'un manque de confiance dans ce que tu fais ou quoi, et que derrière, bah, t'en profites pour...
Allez, hop là, du coup,
c'est un cadeau. C'est très bien, mais non, c'est ça.
Pour te descendre jusqu'au bout.
Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas. La conversation est bientôt finie, les filles. Juste parce que vous n'avez pas répondu, j'ai une dernière question pour vous, mais avant ça, est-ce que vous avez confiance en vous, du coup? Parce que vous avez essayé de l'esquiver, là.
Tu es allée là, mais...
Alors, est-ce que j'ai confiance en moi aujourd'hui? Bah, je pense que ma réponse ressemblera plutôt à celle d'Amélie. Ça dépend des jours. Surtout que nous, les femmes, on a un cycle menstruel qui fait qu'il y a des moments dans le mois où on a plus ou moins confiance en nous, en fonction déjà de notre corps, comment il fonctionne, et aussi des aléas de la vie. Donc, je pense que ça dépend des jours. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne laisse plus mes émotions influer sur la façon dont je vais voir mon corps ou de la façon dont je vais m'arranger. Alors qu'avant, j'étais du genre, si je vais pas bien, je vais m'habiller avec un jogging froissé, les cheveux pas peignés et les chaussettes multicolores. Ouais. C'était vraiment comme ça.
C'est que genre j'étais. Vraiment, en fait, tu exprimes tes émotions.
Sur ah oui, ouais. Et vraiment, les gens savent que oui, toi aujourd'hui,
ça va pas.
Ça va pas. Toi, ça va pas. Mais maintenant, je suis plutôt dans une optique où que j'aille bien ou que je n'aille pas bien, j'essaie de rester constante là-dessus. Je m'habille.
Je prends soin de moi.
Je prends soin de moi. Bon, des fois j'abuse, hein. Des fois je m'habille sur mon 32 alors que je vais juste. Alors que voilà, je vais juste faire une démarche, mais bon.
Au milieu... Mais si ça te fait du bien.
Ouais, limite je me dis, bon, je préfère être dans cet extrême là plutôt que d'être dans un autre extrême où je me laisse complètement aller. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Pour répondre à ta question, ça dépend des jours, mais ma confiance en moi-même, ce qui me permet en fait de la maintenir constante. C'est de ne pas laisser mes émotions influer sur ça, en fait.
Ouais.
C'est un peu ça.
Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez un message pour toutes les personnes qui nous regardent, toutes les femmes précisément qui nous regardent, les hommes aussi, hein, d'abord les femmes.
Je pense qu'il y a un peu trois étapes, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, par rapport au corps. Donc il y a la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un corps. Deuxième étape, c'est prendre soin de son corps. Et troisième étape, c'est aller vers l'intérieur, c'est-à-dire plus sur... qui on est, nos qualités, sortir un peu du truc un peu du physique pour aller vers l'intérieur pour pouvoir s'ouvrir plus aux autres.
Mmh.
Et donc il y a ça. Donc c'est vraiment ces trois étapes où je pense que c'est important
de se pencher.
De vivre. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai dans mon rapport à mon corps, je pense que je suis vraiment passée par ces étapes-là. Et surtout, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de belles femmes et qui ont pas confiance, qui veulent être différentes, qui veulent rentrer dans un moule. Et je trouve ça tellement triste en fait, parce que je me dis, mais nos différences, nos qualités, c'est ça qui fait notre richesse en fait. Et je me dis, franchement, mais aimez-vous quoi. Aimez-vous. Enfin, sans ce corps-là, vous l'avez, vous avez votre personnalité aussi, vous avez votre caractère. Et en fait, s'entourer de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes aussi, ça aussi se met de la valeur et dire bah je suis comme je suis en fait. Et de toute façon, je sais qu'au fond de moi, il y a quelqu'un qui va m'aimer, je sais que, enfin, même qu'il y a des gens qui t'aiment déjà de base. Voilà. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc là de se dire mais putain.
Acceptation.
Enfin, même là, on est belles, on est toutes belles, on est toutes différentes. Et la caméraman aussi, mais vous la voyez pas.
Elle nous la voit bien.
Et je me dis, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est... Voilà.
Le monde ne vous rendra que ce que vous vous donnez à vous-même, en fait. Mmh. Si je me donne de la joie, si je me donne de l'amour, les autres vont me le donner. C'est à moi, en fait, d'apprendre aux autres comment m'aimer. C'est à moi de les éduquer par rapport à ça. Si moi-même je m'éduque mal, je me déteste, au lieu de prendre soin de moi, je mets pas de crème, je m'habille n'importe comment, je cherche pas à savoir si vraiment moi-même je m'aime, l'autre en face de lui, je lui donne le bâton pour me fouetter.
Ouais.
Et son bâton qui va me fouetter sera plus dur que le mien et ça va alimenter.
Ouais.
Dire aussi une chose que je répète souvent, c'est que on est parfaitement imparfaite.
Ouais.
Ça à chaque stade de nos vies. Quand on n'a pas d'enfants, on a un corps donné. Quand on a des enfants, on a un autre corps. Quand on vieillit, on a un autre corps. Face à la maladie, on a un autre corps. Donc je pense que c'est un processus de tout temps, en fait, ce processus-là d'amour de soi, d'acceptation de soi, de reconstruction. Je me suis reconstruit maintenant, mais peut-être que plus tard, je vais peut-être devoir me reconstruire par rapport à autre chose. Donc c'est vraiment un travail de toute une vie et de se dire qu'il faut aller à la découverte de soi. Ça peut passer par la photographie, ça peut passer par faire du sport, ça peut passer par avoir un thérapeute, ça peut passer aussi par se découvrir en faisant des activités qu'on n'a jamais faites, mais de faire des choses, de ne pas rester en fait passif par rapport à ça. Parce que c'est vrai que la société nous présente des modèles de beauté et nous on est passif, on doit recevoir. Non. Certes, elles continueront toujours à nous imposer des dictats, mais après c'est à nous de dire, écoute, j'ai pas ces seins là, c'est très beau, hein, mais moi je les ai pas. J'ai pas ces fesses là, j'ai pas ce teint là, ok, mais avec ce que j'ai, je fais avec. je trouve des robes qui me mettent bien en valeur et tout. Enfin, quand je prends du ventre, bah tant mieux, bah ça me fera un peu plus de rondeur. Et quand je vais le perdre, bah ok, je rentrerai dans telle robe. Mais de ne pas se flageller. Parce que la vie est tellement déjà dure. J'ai pas envie de tomber malade parce que voilà, j'ai alimenté des pensées négatives qui vont me causer d'autres maladies. Non, vraiment, profitons de l'instant présent et voilà, allons toujours à la découverte de nous-mêmes, en fait.
C'est beau.
Oui.
Voilà ce que je dirais.
Merci. C'est un peu dur de passer après On est toutes différentes. Non mais enfin je sais effectivement c'est enfin je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que j'aurais aussi envie de mentionner l'importance d'arrêter de croire qu'on est seul à avoir une différence ou une singularité ou à vivre certaines émotions ou quoi. Parce que moi je sais quand j'étais plus jeune, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui perdaient leurs cheveux. Je pensais que j'étais la seule à avoir cette bizarrerie et elle me disait bah, c'est vraiment bizarre quoi. Enfin, pourquoi je vois personne comme ça et tout. Et en fait, bah non, j'étais pas seule. Et c'est comme ça pour tout. Et je pense que tout le monde, parfois, on se sent seul avec quelque chose. Et en soi, de voir qu'il y en a d'autres qui ont ça ou qui vivent quelque chose de semblable, ça va normaliser notre expérience. Et ça a permis de rationaliser ça aussi et de moins le voir comme quelque chose de bizarre, justement, ou autre. Et moi, je sais que c'est aussi pour ça. Que je me suis lancée par exemple dans la création d'un compte Instagram, c'est je me suis dit il y a peu de modèles là-dessus, enfin on en voit peu des femmes qui perdent leurs cheveux dans les médias ou quoi, et peut-être que ce que je fais ça va permettre à une jeune fille de 15 ans de se dire je suis pas seule, et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aussi par rapport à ce que on disait, parce que Mélissa disait sur le fait de ce qu'on se donne, c'est ce que les autres vont nous donner. Je trouve que ça s'applique aussi beaucoup par rapport à ce qu'on met dans le regard des autres. En fait, plus on se regarde avec bienveillance et avec amour, plus les gens vont nous regarder comme ça aussi. Et on aura moins peur de ce regard extérieur. Et je parle aussi de l'entourage proche parce qu'on ne peut pas contrôler tous les regards. Il y aura forcément des gens qui peuvent nous regarder avec curiosité si on a une particularité ou quoi dans la rue. Mais ça, c'est un dixième de tout le reste et je suis la première à avoir très peur du regard des gens, mais en soi je me rends compte que la plupart des gens je les reverrai jamais et je m'en fous de ce qu'ils peuvent bien penser de moi, et ça c'est quelque chose qui est long à intégrer, mais ça fait du bien une fois qu'on l'a intégré.
Merci beaucoup les filles, franchement je suis trop ravie d'avoir eu cette discussion avec vous, je suis trop trop contente. Moi j'ajusterai juste aux personnes, enfin vous avez déjà tout dit, mais c'est ce que je répète tout le temps, c'est que vous méritez votre propre amour, tout simplement. Vous le méritez, vous le devez, et c'est ok, c'est vrai, d'avoir des moments où on n'est pas forcément au maximum de sa forme, etc., mais ça n'enlève en rien votre valeur. Et en fait, le plus important dans tout ça, c'est la valeur. Donc, voyez-vous comme vous êtes, sublime, tout simplement.
C'est la fin de cet épisode, un grand merci de l'avoir écouté. Si le podcast Fagnosa vous a plu, soutenez-nous en lui mettant 5 étoiles et surtout partagez-le parce que ça nous aide énormément. Et pour finir, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actus, tous les liens sont dans la description, et à très vite pour un prochain épisode.